parole. Merci. Je souhaiterais remercier la secrétaire générale d'être parmi nous aujourd'hui pour cette séance d'ouverture. Je remercie également Madame Anastasia Nesvetaïlova qui a représenté le rapport du Conseil du commerce et du développement pour 2024. Et merci Monsieur le Président pour cette excellente citation, tout à fait opportune. C'est une des qualités dont vous avez fait preuve ces derniers temps. Nous souscrivons à l'intervention faite par le Pérou au nom du groupe des 77 et la Chine et par le Guatemala au nom du GRULAC. Ce rapport est une publication tout à fait essentielle de la CNUSED et son analyse fait la lumière sur des grandes tendances, des tendances qui sont importantes pour le monde entier. Certaines de ces tendances ne sont pas positives. Avec une croissance du PIB très moyenne, et cela est souligné par le rapport 2024, il y a des changements dans les structures des politiques commerciales. Et d'un autre côté, nous voyons l'augmentation de l'économie des services, surtout dans le contexte d'un monde de plus en plus numérisé. Les chapitres 1 et 2 mettent en exergue des difficultés, qui ne sont pas récentes d'ailleurs, des taux de dette et de taux de service de la dette extrêmement élevés pour les pays en développement. Tout cela persiste, mais cela a lieu maintenant dans un contexte de grandes difficultés de transition pour ces pays vers des économies plus durables et plus numériques, alors que le monde en développement le fait d'une façon beaucoup plus rapide. Le Brésil souhaiterait souligner la nouvelle vague de pratiques protectionnistes qui aggravent la situation. Et c'est ici que votre citation arrive à un moment tout à fait opportun. Car on y parle d'une possible guerre tarifaire pour 2025. Ce serait extrêmement négatif pour le commerce, notamment. Je souhaiterais mentionner les flux illicites financiers qui érode le capital mondial et le développement socio-économique également. Il y a un fossé croissant entre les besoins en financement et les ressources financières disponibles pour le développement. Dans une architecture internationale qui, à nos yeux, est obsolète et qui doit être modernisée et réformée. Les chapitres 3 et 4 souligne les difficultés et les possibilités liées à l'économie de services, l'économie créative, les énergies renouvelables et les minerais stratégiques et critiques. Ce sont des nouveaux domaines qui ont un grand potentiel pour une croissance supplémentaire. L'intégration économique a été asymétrique depuis une dizaine d'années. Certaines régions profitent davantage de la situation actuelle que d'autres. Et comme la CNUSED l'a souligné, la plupart des économies en Amérique latine et en Afrique dépendent des prix des produits de base, une situation qui est aggravée par le poids de la dette, la pauvreté, qui persiste depuis les années 60, depuis la création de la CNUSED. Le rapport nous parle également des effets d'une haute concentration du contrôle de certaines entreprises sur les économies nationales des membres, notamment dans le domaine numérique. Ceci peut être très délétère pour les exportateurs de prix de base du Sud qui ne peuvent pas profiter de la dynamique de la transition économique qui accompagne les nouvelles tendances. La poussée pour des matières premières et des minéraux critiques ne font qu'aggraver les risques pour les pays en développement lorsque cela ne s'accompagne pas de stratégies de transformation économique qui vont permettre la diversification du commerce et une plus grande intégration dans les chaînes de valeur mondiaux pour ces industries. Les chaînes d'approvisionnement sans valeur ajoutée sont très vulnérables, notamment à la volatilité des prix. Les nouvelles possibilités de développement existent, mais cela exige conception de politiques qui vont permettre d'arriver à un équilibre entre les gains à court terme des prix de produits de base et le rôle joué par la transition économique et les nouvelles technologies. La diversification et les politiques de redistribution sont au cœur de la résilience économique et de la construction de capacités qui mènent à la création d'emplois, d'augmentation des revenus et l'amélioration de la qualité de vie des populations. La grande difficulté, c'est de voir comment les pays en développement peuvent mobiliser des ressources pour répondre aux besoins des transformations sur le long terme. Nous avons besoin également d'un cadre général pour la réglementation financière. Nous demandons donc une réforme urgente de l'architecture financière mondiale pour trouver davantage de ressources pour le développement au nom d'une croissance inclusive et durable. Ce nouveau cadre doit tenir compte des inégalités systémiques. Il est nécessaire également d'arriver à une plus grande représentation pour les pays en développement au sein des institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, quelque chose que nous avons demandé depuis la Deuxième Guerre mondiale, au moins. Nous avons besoin d'une réforme également pour pouvoir relancer les banques de développement régionaux, pour répondre aux besoins financiers des membres, en augmentant les crédits, les prêts, notamment en monnaie locale, et l'utilisation de mécanismes innovants. Nous devons utiliser au mieux le système fiscal, et cela est souligné au chapitre 5 du rapport. Nous devons renforcer la coopération internationale pour permettre de lutter contre les activités financières illicites et des pratiques illicites qui mènent à des détournements de certains fonds, comme nous l'avons entendu dans la présentation ce matin du rapport. La promotion d'un système fiscal international est essentielle pour tous les membres. Dans le cas contraire, les pays en développement vont peut-être perdre certaines capacités fiscales à cause de la numérisation. Les négociations sont en fait en cours dans différents forums, notamment à l'OMC, concernant un moratoire permanent sur la fiscalité des transmissions électroniques. Nous pensons qu'il faut que cela soit discuté dans le contexte d'un nouveau cadre fiscal mondial. Reconnaissons aussi qu'il y a un besoin de plus en plus important pour que des personnes particulièrement prospères et nantis payent leur part juste, car sinon cela ne fait que menacer la durabilité fiscale, accroître les inégalités. Il faut arriver à une croissance juste et il faut également tout faire pour